Chapitre 6. Comme M. de Carquebus achevait son paraphe au-dessous de sa reconnaissance, un beau paraphe bien compliqué de traits arrondis qui se mêlait et s'élançait en tire-bouchons comme des ressorts élastiques qui eussent dû porter sa signature, Valérie, le valet de chambre, entra dans le cabinet. « Je demande pardon à madame de la déranger, » dit-il, répondant au regard de Clémence. « Mais je viens d'apercevoir M. Louis Méraud montant la côte et j'ai cru bien faire en venant prévenir madame. » Cela fut dit d'une façon respectueuse et craintive qui montrait que ce fier Valéry avait trouvé une volonté à laquelle il s'était soumis. Un moment surprise par cette arrivée qu'elle n'attendait pas si tôt, Clémence se remit bien vite. « C'est bien, » dit-elle, « vous allez attendre M. Méraud dans le vestibule. » Quand il montera le perron, pas avant, vous irez au-devant de lui et aussi poliment que possible, vous lui direz que monsieur le marquis, très fatigué de son voyage, a donné l'ordre de ne recevoir personne aujourd'hui. Valérie se retourna pour sortir. Elle le retint. Si monsieur Méraud demandait à me voir, ce qui n'est pas probable, vous lui diriez que je suis sortie et que je ne dois rentrer que ce soir. À peine le valet de chambre eut-il fermé la porte que M. de Carquebus se leva brusquement et, saisissant la main de Clémence, avant que celle-ci eût pu s'en défendre, il la lui secoua à plusieurs reprises fortement. « C'est bien, » dit-il, « c'est ferme, c'est franc, vous le flanquez à la porte. C'est digne, ouvertement, vous prenez mon parti. Je vous revaudrai ça, foi d'honnête homme, vous serez... » Il se pencha vers elle de manière à lui effleurer l'oreille. « Vous serez ma femme, madame de Carquebus, ni plus ni moins. » Puis, lui secouant encore la main pour bien sceller cet engagement, il sortit en courant. Il avait envie de voir, de derrière un rideau, la figure qu'allait faire son neveu en recevant la communication de Valérie. Tout en courant, il laissait échapper des éclats de rire. Ah, la bonne figure de magistrat, la drôle de mine! Pour Clémence, restée seule dans le cabinet, elle examinait avec calme la situation que cette visite créait, ou plus justement, dessinait. Il n'y avait pas de doutes à avoir sur le but de cette visite. Louis venait demander au marquis de consentir au mariage de Denise. De cela, elle était aussi certaine que si elle avait entendu cette demande. La logique des choses le voulait ainsi. Et d'ailleurs, pour la guider dans ses inductions, elle avait les nombreuses lettres écrites par Louis au marquis depuis leur installation à Sorrente. Pendant tout le temps qu'elle avait habité l'Angleterre avec le marquis, elle n'avait eu rien à craindre de ses lettres. Où Louis eût-il envoyé celles qu'il pouvait avoir le désir d'écrire? Les deux seules personnes qui connussent leur adresse étaient l'abbé Guillemite et maître Pennel, le notaire, et bien entendu, ni l'un ni l'autre n'auraient commis l'indiscrétion de révéler ce secret. Mais, une fois qu'ils avaient été établis à Sorrente, les raisons qui expliquaient le mystère dont ils s'enveloppaient n'existant plus, elle avait été obligée de ne plus tenir cette adresse cachée. Le marquis se fut étonné d'une précaution devenue inutile, et elle voulait avant tout ne pas éveiller ses soupçons. Louis avait donc écrit à son cousin, et la première chose dont il avait parlé, ça avait été de son amour pour Denise. Il s'aimait, et il priait le marquis, en sa qualité de tuteur, de lui donner Denise pour femme. Bien entendu, elle avait confisqué cette lettre. Au bout de 15 jours, une seconde lettre était arrivée, marquant un légitime étonnement de ceux qui n'avaient pas été répondus à la première. Elle avait encore été supprimée pour le marquis. 8 jours après, nouvelle lettre. Celle-là, tout à fait précise, disait en termes clairs que si le marquis continuait à s'enfermer dans un silence inexplicable, Louis viendrait lui demander une réponse de vive voix. Elle se terminait par ces lignes caractéristiques dans lesquelles la juste irritation de l'amant se mêlait à la morale résonnante du magistrat. « Je vous le répète, mon cher cousin, bien que je n'aie pas vu Denise depuis 16 mois, je l'aime, comme si nous étions séparés depuis hier, plus passionnément même, exalté que je suis par les obstacles qui semblent s'opposer à notre union. Sans doute vous êtes maître pour le moment de vous opposer à mes désirs, mais s'il en est ainsi, ce que j'ignore, puisque vous n'avez pas encore daigné me répondre, je me permettrai de vous faire observer respectueusement que ce serait pousser votre droit jusqu'à l'extrême que de vouloir maintenir dans un couvent une jeune fille assez âgée et assez raisonnable pour être crue quand elle affirme que la vie religieuse ne lui inspire que des sentiments de répulsion et d'effroi. » Cette lettre, Clémence ne l'avait pas gardée comme les autres, elle l'avait au contraire portée au marquis et elle la lui avait lue, en insistant adroitement sur les reproches plus ou moins respectueux qu'elle contenait. « Entre M. l'abbé Guillemite, qui parle de la vocation religieuse de Denise, dit-elle, et M. Louis qui la nie, que décidez-vous ? Je ne sais. Je n'aperçois pas l'intérêt de M. l'abbé Guillemite et j'aperçois très bien celui de M. Louis. En tout cas, et en supposant la bonne foi, ce que je fais volontiers, il est certain que M. l'abbé Guillemite, qui voit Denise tous les jours, doit être mieux en situation de savoir ce qu'elle pense que M. Louis, qui ne l'a pas vue depuis 16 mois. Le cœur des femmes est changeant, surtout celui des jeunes filles. Je suis disposée à croire que M. Louis aime Denise, mais je suis fort embarrassée de savoir si jamais Denise a aimé M. Louis. Si vous écriviez à Denise pour la consulter, avec tous les ménagements nécessaires, bien entendu. » C'étaient ces ménagements qui, précisément, avaient rendu cette lettre assez difficile à faire pour que le marquis, après plusieurs jours de réflexion, eût renoncé à l'écrire. « Nous irons en France dans quelque temps, avait-il dit, et j'interrogerai Denise moi-même. On se comprend mieux de vive voix que par lettre. » Et, sous le coup de la contrariété que cette reculade lui avait causée, il avait chargé Clémence d'écrire à Louis que, pour le moment, il n'était pas décidé à consentir au mariage de Denise et que, plus tard, il verrait. Pour Clémence, gagner du temps était la grande affaire. Avant qu'elle laissât le marquis rentrer en France, des mois s'écouleraient, suivis d'autres mois encore. Pendant ce temps, bien des choses pouvaient arriver. D'ailleurs, en concédant le pire et en admettant qu'il n'arrive à rien, soit du côté du marquis, soit du côté de Denise, de telle sorte que Louis, exaspéré par l'attente, voulut venir lui-même en Italie pour arracher une réponse formelle à son cousin, elle s'était promis de lui ménager un accueil tel qu'il fût impossible d'aborder cette question du mariage. Et pour commencer, elle lui avait répondu, au nom du marquis qui avait signé la lettre, qu'on ne le recevrait pas à Sorrente. Elle vivait donc, assez rassurée sur ce point, mais pressant néanmoins l'abbé Guillemite de pousser Denise dans la vie religieuse, lorsqu'un fait dû au hasard l'avait décidé à ramener le marquis à Rudemont. Un jour, lisant un journal français, ses yeux avaient été attirés, à l'article Tribunaux, par ces mots imprimés en petite capitale, « Testament du baron de Navareux, demande en nullité pour cause de captation ». Héritier de Navareux contre Mademoiselle Plessis. Une histoire de testament, cela avait de l'intérêt pour elle. Aussitôt, elle avait commencé la lecture de ce procès intenté par des héritiers à une jeune femme qui avait été la maîtresse d'un vieillard et qui s'était fait donner par testament une grosse fortune. Les héritiers, pour soutenir leur demande, s'appuyaient sur la captation. Le numéro du journal qu'elle avait entre les mains contenait les conclusions de l'avocat général qui commençait ainsi. Dans cette affaire, le premier point à examiner est de savoir s'il y a eu captation. La captation, c'est la substitution d'une volonté à une autre volonté. Pour la prouver, il ne suffit pas de dire que Mademoiselle Plessis a été la maîtresse de M. le baron de Navareux. En pareil cas, le concubinage à lui seul ne suffit pas. Il faut des manœuvres dolosives, il faut l'isolement du testateur, l'éloignement calculé de la famille, la calomnie, en un mot, l'effacement de la volonté. Se livrant à l'examen des faits, l'avocat général avait conclu que la captation était prouvée et la cour avait annulé le testament. Elle avait lu à plusieurs reprises ce procès qui lui révélait des choses qu'elle ignorait complètement. Ainsi, un testament était annulé parce que le testateur n'avait pas pu communiquer librement avec ses parents. Au contraire, il était maintenu, malgré le concubinage, comme disait l'avocat général, s'il n'y avait point eu isolement. Pour qu'un homme pût faire un bon testament en faveur de celle qu'il aimait, il fallait donc que rien ne fût changé aux conditions ordinaires de sa vie. Ainsi, un séjour à l'étranger pouvait être une cause de nullité, et sûrement il en était une si les parents du testateur n'avaient pas pu arriver jusqu'à lui. Pourquoi n'avait-elle pas appris toutes ces choses, si utiles à connaître pour une femme qui a son chemin à faire dans ce monde ? Le piano, sans doute, a du bon, mais la loi peut fournir des armes puissantes à celles qui en apprennent le maniement. Son parti fut vite pris. Elle reviendrait à Rudemont et elle placerait le marquis au milieu de sa famille. Avant tout, il ne fallait pas donner prise à la loi. Quant à se défendre contre cette famille, c'était une affaire d'adresse. Si elle ne sentait pas en elle la force nécessaire pour engager cette lutte et la mener à bonne fin, elle devait renoncer à cet héritage sur lequel sa main était déjà posée. Faire un testament au marquis n'était que le petit côté de la question. Le grand, l'essentiel, c'était de lui en faire un qui fût inattaquable ou tout au moins assez solide pour résister à toutes les attaques. Elle était donc bravement revenue à Rudemont, décidée à tenir tête à ses adversaires. Et pour commencer, elle s'était adressée à M. de Carquebut. Mais celui-là, elle ne le craignait pas. Elle le connaissait bien et savait comment manœuvrer avec lui. Elle n'avait donc été ni surprise ni flattée de son succès. Pour elle, c'était prévu. Mais tout n'était pas fini parce qu'elle avait mis M. de Carquebut dans son jeu. Sans doute, c'était beaucoup de pouvoir répondre à un reproche de captation. Et celui-là, il n'était donc pas de la famille, il n'était donc pas l'héritier direct du marquis. L'avons-nous éloigné? N'a-t-il pas vécu avec le testateur dans l'intimité la plus étroite? Malheureusement, il n'était pas seul. Derrière lui venait encore, autrement redoutable, Madame Méraud, Louis Méraud et Denise. Comment empêcher Louis d'arriver jusqu'au marquis? Comment empêcher le marquis d'aller voir Denise? Comment empêcher le mariage des deux jeunes gens? C'était maintenant que la vraie lutte commençait. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent n'était rien auprès de ce qui lui restait à faire.